Moi, j'adore les samedis matins comme ça. On n'arrête pas de danser dans le studio avec Enrique. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est le direct qui se poursuit. Enrique, félicitations et bon anniversaire pour ta 300e émission. 300 quand même, mine de rien. Ça commence, tu commences à faire partie des meubles. T'es comme moi, en fait, on est greffé sur les sièges du studio de Graphite ici à Compiègne, c'est pas possible. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de Biotine. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin à 10h. Il y a pas mal de choses encore à parler au niveau de l'actualité scientifique. On va partir au Brésil parce qu'il y a la COP30. On va parler de Chine. Alors, on va parler du pays de la Chine, mais on va parler de Chine aussi. Ce fameux commerçant là qui s'installe à Paris, et on en parle beaucoup. On va parler de guerre spatiale, on va parler d'intelligence artificielle. Et si on a le temps, on va parler d'Hitler. Parce que juste avant d'arriver dans le studio, j'ai vu cet article du Point qui parlait de cette émission qui va être diffusée ce soir. Alors c'est au Royaume-Uni sur la chaîne Channel 4 et qui est consacrée à l'analyse de l'ADN d'Adolf Hitler. Et il y a donc des révélations sur la santé du dictateur nazi. Donc si on a le temps, j'essaierai de vous relater cet article du Point qui a été mis en ligne ce matin. C'est le programme que je vous propose dans cette nouvelle émission de Biotine. Non, je ne sais pas du tout le numéro de cette émission, je ne les compte plus depuis un certain temps, mais il y en a déjà aussi pas mal. C'est parti, générique.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Et ça te pose une émission, toi, Enrique. Un générique comme ça, pouf. Et juste après, on redevient sérieux parce qu'on a pas mal dansé avec toutes ces musiques d'Enrique. Mais là, on redevient sérieux avec l'actualité scientifique et avec notamment cet éphéméride parce que nous sommes le 15 novembre. Il fait un temps un peu gris sur Compiègne. C'est dommage, mais qu'est-ce que vous laissez l'automne, paraît-il. Le 15 novembre 1971, c'était le lancement du microprocesseur Intel 4004. C'était le premier microprocesseur commercialisé. À l'époque, il y avait des versions un peu en céramique. C'est quand même en 1971 qu'on lance ces premiers microprocesseurs. Je trouve qu'avec ces éphémérides, ça nous permet d'avoir un petit peu une idée de l'échelle de temps qui nous concerne et de ce qui se passait au niveau de l'informatique pour les années 70. En 1988, c'est le premier vol d'une navette spatiale soviétique qui s'appelle Buran. Alors Buran en russe, ça veut dire tempête de neige. Donc il s'était dit, on va quand même donner un nom assez fort parce qu'on était bien sûr en pleine guerre froide. C'est un peu la fin de la guerre froide. C'est un programme qui a été lancé en 1976, mais le premier vol a eu lieu en 1988, et donc un 15 novembre. Et c'est un programme qui s'est terminé 2-3 ans après. C'était la chute de l'Empire soviétique, la fin de l'URSS. Et donc, cette tempête de neige, finalement, c'était quelques petits flocons. Et ce programme spatial Buran, ça a été quand même assez intéressant parce que, évidemment, la technologie avançait à ces moments-là. Mais ça s'est terminé plus tôt que prévu. Naissance, le 15 novembre 1688. On va partir dans le 17e et le 18e siècle. La naissance du père Louis-Bertrand Castel. C'était un savant jésuite, mathématicien, physicien, journaliste. C'est à l'époque où on faisait quand même un petit peu tout. Il a publié en 1724 un traité sur la pesanteur universelle où il expliquait tous les phénomènes de l'univers par deux principes. La gravité des corps qui faisait que tout devait tendre au repos. Et il parlait de l'activité des esprits qui créait incessamment le mouvement. Donc on était quand même sur un aspect un peu religieux encore de la science. Il est en fait l'un des principaux opposants en France de la théorie de la gravitation de Newton. Donc Newton, il est passé un petit peu à la postérité, on va dire. Et le père Louis-Bertrand Castel, ce n'était pas nécessairement le cas avec cette théorie un petit peu plus, en dehors de la réalité scientifique de l'époque. Décès le 15 novembre 1630, on est toujours autour du XVIIe siècle, de Johannes Kepler. Kepler, ça nous dit un peu quelque chose. C'est un nom qu'on a peut-être vu des fois sur des plaques de rue ou des choses comme ça. C'est un astronome allemand célèbre pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, qui affirmait que la Terre tourne autour du Soleil, et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas toutes autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites, mais des trajectoires en forme d'ellipse, donc un petit peu en forme ovale, on va dire. Kepler, il a découvert les relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes justement sur leur orbite, et on a traduit cela par ce qu'on appelle les lois de Kepler. C'est pour ça que ce nom est un peu passé à postérité. Ces relations furent ensuite exploitées par Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. Johannes Kepler est donc mort le 15 novembre 1630. Voilà pour cette éphéméride. Allez, alors j'ai tellement d'articles, je ne sais même pas par lequel commencer, mais j'avais envie quand même de démarrer avec l'annonce de la mort d'un scientifique où son nom est passé à la postérité également. C'est la mort de James Watson. Alors, James Watson, peut-être que certains se disent « non, ça ne me dit pas grand-chose ». En fait, c'est en 1953 qu'il y a une véritable révolution de la science du XXe siècle qui débute, la révolution que l'on doit justement en premier lieu à James Watson et à Francis Crick. Ah, Watson, Crick, ces deux noms peut-être pour certains vous disent quelque chose. Ils ont publié un article, une publication un peu retentissante dans le journal Nature. Alors si c'est dans Nature, mon Dieu, c'est que ça doit être important. En fait, Watson et Crick n'aurait rien pu faire sans les travaux d'une biologiste moléculaire britannique qui s'appelait Rosalind Franklin, ou Franklin, on va dire Franklin. Elle était victime du fameux effet Matilda, c'est-à-dire l'effet de l'invisibilisation des femmes en recherche scientifique. Hein, on mettait les hommes en avant parce que c'était sûrement plus sérieux. Vous voyez, c'était un petit peu cette époque-là. Rosalind Franklin, ou Franklin d'ailleurs, j'ai un gros doute, on va dire Franklin peut-être finalement, elle a un petit peu disparu parce qu'elle est décédée d'un cancer quelques années avant la remise d'un prix Nobel de médecine en 1962 à James Watson, à Francis Crick et aussi à Maurice Wilkins. Comme on pouvait récompenser trois scientifiques, eh bien on s'est dit, tiens, on va mettre leurs proches collaborateurs. En plus, c'était un homme, donc il cochait toutes les cases. Donc ces trois-là ont reçu un prix Nobel de médecine en 62. Francis Crick, il est décédé il y a plus d'une vingtaine d'années, Wilkins également. Et donc on a appris il y a 2-3 semaines à peu près, le décès à l'âge de 103 ans de James Watson. Mais qu'est-ce qu'il avait quand même découvert, Watson? Qu'est-ce qu'il a découvert avec Crick? Eh bien, il avait découvert le fait que l'ADN avait une structure en double hélice. C'est ça, la représentation de l'ADN en forme d'hélice double. C'est grâce à eux que cela a pu être révélé. En fait, l'histoire, elle est un petit peu plus compliquée. Et c'est un article de Futura Science qui nous l'explique. En fait, on découvre un petit peu le secret de la vie, le secret de l'hérédité, en montrant que l'ADN avait une structure en double hélice, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, et cette structure, elle porte aussi le code génétique grâce au chromosome. James Watson, il a écrit un ouvrage de vulgarisation scientifique. Il a trouvé le bon titre. Hein. Il a dit, tiens, on va appeler ça la double hélice, comme ça, ça va faire vendre. Ben, effectivement, ça a bien fonctionné. L'idée, c'était de décrire sa trajectoire intellectuelle et aussi l'histoire de la découverte de la structure de l'ADN. C'est un ouvrage qui a fait quand même polémique parce qu'il avait traité d'une façon particulière cette fameuse Rosalind Franklin. Alors, il faut rappeler un petit peu quelques éléments de l'affaire. Rosalind Franklin, elle a pris des photos, et notamment une fameuse photo qu'on a appelée la photo 51. Et elle étudiait à l'époque la cristallographie au rayon X des structures moléculaires. La cristallographie des rayons X est une technique d'imagerie médicale, notamment une technique d'imagerie générale. Et elle a voulu essayer de donner des images au niveau moléculaire de ce qu'il se passait dans le corps humain. Donc elle a pris plusieurs photos sans nécessairement savoir ce que cela signifiait on n'arrivait pas nécessairement à comprendre ce dont elle avait réussi à mettre sur son cliché. Et il y a un biophysicien qui donc s'appelle Maurice Wilkins, hein, le troisième qu'on a récompensé, il a montré cette photo à Watson et à Crick. Et tout ça, bien sûr, à l'insu de cette fameuse Franklin. Et ben Watson et Crick, ils ont publié des travaux sans l'autorisation de Rosalind Franklin, même si, effectivement, à l'époque, elle ne savait pas précisément ce qu'elle avait photographié. Il n'empêche qu'ils n'en ont pas parlé. Ils ont dit « Oh, mais c'est intéressant, ça !» Et du coup, on va pouvoir se dire « Mais ça y est, elle a pris en photo l'ADN et elle a pris en photo, précisément, cette structure en double hélice. » James Watson va plus tard être l'un des acteurs déterminants du projet Génome qui a constitué la mise au point de techniques de plus en plus puissantes et de moins en moins coûteuses pour faire un séquençage quasi complet du code génétique d'un être humain. Mais ces dernières décennies, il y a quand même plusieurs affaires et des témoignages qui ont émergé à propos de James Watson sur des idées à la fois sexistes et des idées un peu racistes. Donc sa fin de carrière, elle n'a pas nécessairement été glorieuse par rapport à la découverte de ce qu'il avait mis en avant avec Crick. La trajectoire de Watson et de Crick qui va les conduire à révolutionner la biologie, elle est assez étonnante, parce qu'à l'époque, c'était un peu des outsiders. Personne n'aurait parié sur eux pour percer le secret fondamental de la vie. Il y avait d'autres, on va dire, comment on peut dire, on pensait que d'autres personnes auraient peut-être eu les moyens et la possibilité de découvrir cela, et finalement ce sont les outsiders par rapport aux favoris qui ont réussi cela. James Watson, il est donc né à Chicago dans les années 20, il entre à l'université à seulement 15 ans, c'est quand même assez intéressant, et en fait il veut faire comme son père, il est passionné de zoologie, son père également, et notamment par l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux. On est quand même assez loin de la génétique et de la biologie moléculaire. Il n'empêche que c'est des trajectoires assez intéressantes. Donc voilà, on parle donc aujourd'hui de James Watson qui est donc décédé il y a quelques semaines. Et James Watson, il avait donc un petit peu co-découvert ce secret de la vie, donc la base de notre ADN. Et puis donc ça nous permettait justement avec le fait de cet article de Futura Science de parler également des travaux de Rosalind Franklin qui était également très importante dans cette découverte et malheureusement à l'époque elle était mise un petit peu de côté. Alors elle revient maintenant sur le devant de la scène avec cette idée de justement de montrer la part très importante de l'implication des femmes dans la recherche scientifique et de plus en plus le portrait, la personnalité de Rosalind Franklin est mise en avant et c'était l'occasion voilà, aujourd'hui de pouvoir évoquer cela. Voilà, c'était ce que l'on pouvait dire pour l'instant pour démarrer cette émission. Bon, on va écouter un petit peu de musique hein, parce que je vois qu'il est déjà 12h15 sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, un peu de musique. Et on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va partir au Brésil à l'occasion de la COP30. C'est parti, à tout de suite. Yo, everybody say yeah. Everybody say yo. Yo. Everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo. Yo. When I was a baby, everybody said to me that I was a voodoo child. Listen to me, baby. I'm a voodoo child. Since I'm a little baby, everybody tell me that I am a voodoo child. Listen to me, baby. I'm a voodoo child.
Is my history, my roots like the roots of a tree. No bullshit, no props, just the reality. Yes, I was born under the sun shining in the sky, but when I shut my cry, bye-bye the blue, blue sky. Yo. So the wind shook the trees, clouds became a grease, feathers rumbled, spain, it was pouring rain. So the rise became a river, a torrent all over. So the rise became a river, a torrent all over, which cleaned the earth and told the universe.
Baby, I'm a woman child. I'm the woman child. qui l'aime femme vaudou. En causant nous foulce et l'outron. Si ce clan à nous faille répéter les ausidous. La famille s'est redoutée à des bons. Ben de ouf qui s'est vengu sur terre per fortune. Si est tombé tout douce ou comme une opéra des lunes. Des mignons des pelucos, pas une non pas vune. Et des pays gentils tiennent le cantalune.
Ne me remercie absolument pas, je n'y suis pour rien pour la programmation musicale. Je choisis au hasard dans la playlist qui nous est fournie par la direction de Graphite. C'était Voodoo Shies du groupe Puppet G. Rilt sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Donc je découvre tout ça en même temps que vous. Mais c'est vrai que c'était sympa. Ça nous met une pêche en fait le samedi matin. Alors on a une heure d'Enrique plus ce genre de musique à mon avis. Vous passez des samedis midi assez formidables en notre compagnie et c'est tant mieux. Alors on va partir donc... Non, c'est pas du tout cet article. Je me disais on partait au Brésil et j'avais la guerre spatiale. C'est l'article d'après qu'on évoquera. Non, je voulais parler de la COP30 qui a lieu en ce moment même. C'est à Belém au Brésil. Ça a lieu jusqu'au 21 novembre, la semaine prochaine, un vendredi prochain, je crois. En tout cas, la COP30, elle intervient à un moment charnière. Il y a deux ans, à l'occasion de la COP28, le bilan mondial, qui est un élément fondamental de l'accord de Paris, qui est utilisé pour surveiller un petit peu sa mise en œuvre, eh bien, ce bilan global a révélé que le monde n'est pas sur la bonne trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. C'est ce qui avait été défini à l'occasion des accords de Paris. Les émissions ne baissent pas assez vite, les financements sont insuffisants pour s'adapter au changement climatique. Cette année, les contributions déterminées au niveau national doivent exposer les plans d'action des signataires de l'accord de Paris en tenant compte justement de ce bilan mondial. Ainsi, la COP30 arrive à un moment clé pour transformer un bilan négatif en action concrète grâce au programme d'action. C'est un programme qui avait été créé il y a une dizaine d'années. C'était à Lima, au Pérou, à l'occasion de la COP20. Ce programme avait pour objectif d'obtenir la participation du secteur privé et des gouvernements à l'effort climatique. Et pour aligner les promesses de l'accord de Paris avec des actions réelles, le Brésil met en avant 6 axes de discussion. Le premier couvre un thème classique de ces fameuses COP, c'est la transition dans la production d'énergie, l'industrie et les transports. En fait, il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs les plus polluants. Donc le programme d'action cite comme objectif de tripler les capacités d'énergie renouvelable, mais aussi d'accélérer dans les technologies à faibles émissions, dans les secteurs qui sont un petit peu difficiles à décarboner. Ça peut être l'aviation, la construction, la production d'acier ou également le transport routier. Donc cette année, le Brésil compte élargir la question environnementale en mettant en avant d'autres thèmes que les émissions de gaz à effet de serre. Et la tenue de la COP qui a lieu au Brésil, en Amazonie plus précisément, ça rend le sujet des forêts totalement incontournable. Les objectifs du programme d'action incluent de stopper la déforestation, de préserver les écosystèmes et de lutter contre la désertification. L'agriculture, c'est le troisième axe thématique de ce programme d'action. L'objectif, c'est de promouvoir des systèmes agricoles et alimentaires plus résilients, plus durables, grâce par exemple à ce qu'on appelle l'agroécologie et en réduisant également le gâchis alimentaire. C'est vrai que ça serait pas mal. Et malgré ces ses efforts. Le changement climatique est déjà engagé, il faut que l'humanité s'y prépare. Ainsi, il faut renforcer la résilience des villes et des infrastructures au travers, par exemple, de constructions qui seraient plus durables. Et aussi l'amélioration de la gestion de l'eau qui devient un axe prioritaire. Et un deuxième enjeu autour de l'adaptation qui consiste en la promotion du développement humain et social, notamment grâce à une meilleure résilience des systèmes de santé. Donc on est vraiment sur des sujets assez larges au niveau de cette COP30 à Belém. Enfin, ces cinq premiers thèmes ne peuvent se réaliser sans levier financier. Et donc, il y a l'idée de développer la finance climatique, d'harmoniser un petit peu les marchés du carbone, de relier le climat et de soutenir l'entrepreneuriat climatique. Tout ça fait partie des objectifs qui donc sont un petit peu liés. Tout est un peu lié, une question de volonté, mais une question de volonté international, mondial, global, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est d'où l'intérêt de cette COP30. Alors, pour l'instant, comme c'est en pleine réunion, en pleine discussion, on n'a pas les conclusions de ce qui va être décidé. En tout cas, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Mais bien sûr, c'est à suivre et on reviendra bien sûr là-dessus. Parce que la COP30, effectivement, c'est... Il y a un petit peu désespoir des... espoir, le mettre en deux mots, mais effectivement, on n'est pas toujours optimiste. On verra cela. Guerre spatiale, c'est un autre sujet qui est abordé dans un article de Futura Science concernant la doctrine 2025-2040 qui a été dévoilée par le président français Emmanuel Macron. Si sur Terre, avec les conflits majeurs actuels, nous avons parfois l'impression de vivre dans un monde de brutes, eh bien cette tendance, elle se propage à l'espace. Alors, on parle très souvent dans cette émission de la militarisation de l'espace avec des engins russes et chinois qui mènent des manœuvres agressives à l'encontre des satellites occidentaux et français. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des actes hostiles dans l'espace. La France se prépare à cette guerre qui se déroule au-dessus de nos têtes. Ainsi, à Toulouse, lors de l'inauguration de la première base spatiale militaire française du commandement de l'espace, donc la BA-101, Emmanuel Macron a levé le voile sur la nouvelle stratégie spatiale française 2025-2040. Le président français a acté la nouvelle doctrine française avec l'accélération des programmes de défense spatiale, des lasers, des brouilleurs, des satellites de patrouille qui vont être lancés de façon anticipée pour protéger les constellations de satellites français contre les incursions ou les sabotages. Et donc dès 2027, donc dans moins de deux ans, la France mettra sur orbite ses premiers gardiens de l'espace. C'est un satellite qui s'appelle Orbit Guard, qui sera donc en orbite géostationnaire. Et il y en a deux autres satellites qui vont être lancés également, cette fois en orbite basse, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Toutatis. J'adore. On ne sait pas comment nommer les programmes, on va mettre Toutatis, comme ça fonctionnera. Ces moyens s'ajouteront à un autre prototype, le prototype s'appelle Yoda aussi, il y en a qui se font plaisir à mon avis, un prototype qui est prévu pour 2030, qui est vraiment un témoin assez important de ce virage technologique majeur. En fait, cette revanche spatiale, elle ne se veut pas solitaire. Paris plaide pour une Europe spatiale souveraine, affranchie de toute dépendance envers les géants américains. Et lors de son discours, le président français a ciblé, sans le nommer, Elon Musk avec SpaceX. Emmanuel Macron a également appelé à en finir avec le retour géographique, cette règle qui disperse la production d'un lanceur entre plusieurs pays européens au détriment de l'efficacité. Et donc son mot d'ordre, c'est de consolider les forces, de rassembler les industriels historiques et les jeunes pousses pour bâtir un espèce de système, d'écosystème cohérent et compétitif. C'est une intention qui montre que l'espace, c'est un milieu particulier et qu'il nécessite une collaboration poussée des civils et des militaires. Alors reste bien sûr la question des moyens. La France promet de consacrer plus de 16 milliards d'euros d'ici 2030 au spatial. C'est quand même pas anodin comme décision. De son côté, l'Allemagne affiche désormais un effort de plus du double. Donc on est vraiment sur des montants, sur des estimations budgétaires assez importantes. Paris mise donc à la fois sur la montée en puissance de sa base industrielle et sur la coopération européenne plutôt que sur une course budgétaire. peut-être qu'on n'a peut-être pas nécessairement les moyens. En tout cas, pour le moment, au niveau concret, dans la base, justement, 101 de Toulouse, qui est située à proximité du CNES, le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, eh bien, les bâtiments accueillent plus de 300 spécialistes, quand même. Et donc, avec son discours, le président Macron montre que la France se prépare, non pas pour mener la guerre des étoiles, mais pour s'assurer qu'elle ne se jouera pas, cette guerre des étoiles, sans la France. Eh bien, écoutez, on verra ça, on suivra ça. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que dans cette émission, on parle très souvent de l'espace et on ne parle pas nécessairement souvent de la France ou de l'Europe dans cette course, dans cette évolution technologique. Donc là, il y a une volonté et il y aurait apparemment aussi une volonté politique et derrière aussi une volonté budgétaire de pouvoir essayer d'accompagner cela. Bah, écoutez, on verra bien sûr, affaire à suivre, bien évidemment. Aucun sujet, aucune transition, mais on va rester en France et on va parler. Alors, ça, on en a parlé dans les médias, on a parlé de ce géant chinois qui s'appelle Xin, qui a inauguré sa première boutique physique installée au BHV à Paris. C'était il y a à peu près 15 jours, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, en tout cas, il n'y a pas longtemps. Et tous les jours, on en parle. Il y a eu, dès la matinée, des élus, des militants écologistes et des associations qui se sont rassemblés pour dénoncer une ouverture jugée provocatrice au cœur de la capitale de la mode. En cause, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un sabot éclatant d'un modèle économique en pleine contradiction avec l'urgence climatique. C'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une ouverture d'une boutique Chine à Paris au moment où il y a une COP30 au Brésil. Parce qu'en fait, les sujets sont assez liés. Derrière les prix dérisoires et les milliers de nouveautés mises en ligne chaque jour se cachent des chaînes chimiques, des chaînes logistiques, des chaînes énergétiques qui laissent une empreinte bien réelle. La grande majorité des vêtements de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, ça repose sur des fibres synthétiques qui sont issues du pétrole, comme le polyester, le nylon. Et en fait, il y a eu une étude qui montre que ces fibres issues du pétrole représentent près de 60% de la production mondiale textile. C'est quand même assez important, c'est assez énorme. Et 88% d'entre elles proviennent encore de matières vierges fossiles. C'est un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Ces fibres, elles sont légères, elles sont peu coûteuses et elles sont traitées à l'aide de teintures et d'additifs chimiques. Il n'y a pas moins, dit-on, de 15 000 substances différentes qui sont employées dans l'industrie textile mondiale. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par le programme des Nations Unies pour l'environnement cette année. Résultat, on a donc des tissus à faible coût, mais qui sont riches alors en résidus de métaux lourds, d'agents antimicrobiens, de composés fluorés. Une espèce d'odeur, quand on achète ce genre de vêtements qu'on n'a pas ailleurs. Ben, c'est un petit peu tous ces produits que l'on met à l'intérieur. Et la difficulté, c'est qu'au lavage, ces vêtements vont relâcher des microfibres plastiques qui vont rejoindre les eaux usées. Et donc, au final, ça va atterrir dans les océans. Et selon la fondation Plastic Soap, les fibres textiles représentent déjà plus du tiers des microplastiques qui sont présents dans les milieux marins cette année. C'est un chiffre faramineux. Ces t-shirts qui sont produits à grande échelle et vendus à très bas prix résistent mal au lavage. Et après quelques cycles de lavage, eh bien les fibres se relâchent, les couleurs alternissent, les formes se déforment. Donc il y a une partie importante des articles qui sont renvoyés par les clients et qui ne sont pas remis en vente. Et donc tout ça, ça va vers des entrepôts logistiques à l'autre bout du monde où c'est peut-être détruit, c'est incinéré parce que ça deviendrait peut-être plus rentable. Résultat, vous avez un coût énergétique faramineux parce que ces retours sont transportés par avion cargo, par fret rapide, ce qui va amplifier un petit peu le poids climatique de ce modèle économique. Et donc cette année, l'Union européenne a rappelé que moins de 1% des textiles collectés étaient réellement recyclés en fibres neuves. Et c'est ça qui est un chiffre aussi intéressant qu'on a dans cet article du Futurin, c'est qu'on pensait que le recyclage des textiles était un petit peu plus élaboré. Et en fait, non. 1% des textiles collectés sont réellement recyclés. 1%, c'est-à-dire rien. Le reste, eh bien, ça finit dans des décharges. Vous avez peut-être vu toutes ces photos où on voit des décharges avec des amas d'habits. Voilà, ça reste comme ça. Il y a des filières d'exportation aussi vers l'Afrique ou vers l'Asie du Sud. On va envoyer ça là-bas parce que comme ça, c'est pas chez nous. Selon l'agence Reuters, Chine a émis plus de 8 millions de tonnes de CO2 rien que pour ses transports et retours l'année dernière. C'est en hausse de 13% en un an. À titre de comparaison, en fait, c'est plus que les émissions annuelles d'une ville comme Marseille. Marseille, il y a quand même du monde, il y a 1 million d'habitants. Et bien là, Chine fait encore pire. Et puis, cela ne prend pas en compte tout le reste de la chaîne, c'est-à-dire toute la fabrication des fibres, les teintures, la logistique locale, les lavages à domicile. On ne prend même pas ça en compte dans ce chiffre. C'est dire que le résultat doit être, de toute façon, peine peut-être à estimer concrètement cela, mais le chiffre doit être vraiment effrayant. À l'échelle globale, le secteur textile représente 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que les vols internationaux, c'est plus que le transport maritime réuni. Enfin, c'est quand même assez énorme. Chaque t-shirt bon marché vendu devient ainsi une espèce de maillon supplémentaire d'un réchauffement diffus qui est alimenté par la vitesse et la quantité plutôt que par la durabilité. Et donc, voilà, c'est un cocktail assez explosif tout ça. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait pas mal de manifestants contre Chine, c'était aussi derrière pour montrer un petit peu toute cette économie et toute cette dégradation également qui se produit. C'était un article de Futuration, ce que je trouvais assez intéressant parce que ça permet un petit peu d'avoir un regard un petit peu plus large que l'idée de se dire « Non, on ne veut pas de Chine au BHV à cœur de Paris. » C'est beaucoup plus complexe que cela, bien évidemment. On écoute un peu de musique et puis on va continuer à feuilleter la revue Presse d'actualité scientifique. Je vois que j'ai plein d'articles, je vois qu'il est 12h33. Je ne vous promets pas de pouvoir tous vous les lire, mais on va essayer de faire au mieux. Allez, on écoute Tête Raide sur l'antenne de Graphite.
Jaune et noir dans le noir, vert et bleu dans les cieux, blanche neige en arpège, et rouge et vif sur le vif. Terre ancienne, c'est la tienne, outre-mer prend la mer, bleu turquoise en ardoise, jaune d'or où tu dors. Je dors un peu, mais pas trop. Ça dépend de la météo. On vous le dira bientôt, avant qu'il ne soit trop tôt. C'est bien fait. Et quand ça dure, vie d'ordure, sur la zone des ozones, d'une terre qui nous enterre. Et t'as va bien, et t'as d'urgence, et t'as qu'à pas mon petit bonhomme, t'as qu'à pas suivre le métronome, et t'as une chance. Je dors un peu mais pas trop, ça dépend de la météo. On vous le dira bientôt, avant qu'il ne soit trop tôt. On vous
jamais un, c'est trop. Il y a des nuages volcaniques et des patatras atomiques. Si tout va bien dans le néant, qui sait-il qui passe devant?
Météo, c'était Tetred sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je regardais un petit peu ce qui se passait dans le studio parce qu'on a pas mal d'informations un peu partout. Alors, je découvre qu'il y a un concert qui est prévu, une soirée antichambre qui est prévue ce soir. On est bien le 15 novembre, je ne me trompe pas, je suis un peu perdu dans les jours. Oui, nous sommes le 15 novembre. Donc ce soir à 18h30 aux Écodromes de Compiègne, eh bien, soirée antichambre, partenariat Graphite avec une programmation assez intéressante. Vous voyez tout ça sur les réseaux sociaux de Graphite, Facebook, Instagram, je suppose. Vous avez toutes ces informations-là. Donc c'est ce soir, hein, 18h30, c'est Dicodrome de Compiègne. Pardon, on va y arriver.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Pendant ce temps-là, comme je regardais un petit peu les affiches qu'il y avait un petit peu partout dans le studio, j'ai pas regardé ce que j'allais vous évoquer dans cette émission. Alors peut-être que si, je vais peut-être retrouver cet article que j'ai lu ce matin avant d'arriver du Point, parce qu'il y avait, je pense qu'on va pas mal en parler un petit peu. Alors comme c'est sur mon téléphone, c'est du direct, hein, je suis désolé, c'est vraiment de l'improvisation totale, j'espère que ça va fonctionner, de cet article du Point que j'ai lu ce matin par rapport à une émission qui va être diffusée ce soir. En fait, l'histoire, elle n'est pas vraiment nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une espèce de chanson populaire qui affirmait déjà qu'Adolf Hitler avait un seul testicule. Et bien, la science, elle pourrait bien confirmer cette information sur l'anatomie un peu intime du dictateur nazi. C'est ce soir au Royaume-Uni que la chaîne Channel 4 va diffuser une émission consacrée à l'analyse de l'ADN d'Adolf Hitler. Et donc, dans ce programme, les scientifiques révèle de nombreuses informations sur la santé du dirigeant nazi. Tout commence en fait par l'analyse d'un morceau de tissu imprégné de son sang qui provient directement du canapé sur lequel il s'est suicidé, c'était le 30 avril 1945. Et grâce à cette analyse, les chercheurs ont conclu que Hitler souffrait bien d'un trouble génétique qui aurait affecté le développement de ses organes sexuels. Précisément, il était très probablement atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Kallmann. C'est un syndrome qui a été décrit pour la première fois en 1944 par Franz Josef Kallmann, qui est un généticien d'origine allemande. Et d'après les données disponibles, sa prévalence serait d'environ 1 sur 8000 garçons et 1 sur 40000 filles. Mais la réalité, elle serait certainement bien au-dessus. Ce syndrome peut empêcher l'un ou les deux testicules de descendre. Et en 1923, il y a un rapport médical qui mentionnait un problème au niveau du testicule droit d'Hitler. Précisément, cette maladie, elle se manifeste par un faible taux de testostérone, je vais y arriver, pardon, et un développement anormal des organes sexuels, c'est-à-dire pouvant se traduire, par exemple, par la présence d'un micro-pénis. Et comme l'explique le site Orphanet, qui est spécialisé dans les maladies rares, le syndrome de Kallmann résulte d'un défaut du développement du système olfactif et de la migration embryonnaire depuis l'épithélium olfactif dans une région du cerveau. En fait, ce syndrome, il est causé par des mutations génétiques qui vont affecter le développement de l'hypothalamus. L'hypothalamus est dans le cerveau. La majorité des cas rapportés sont sporadiques, mais des formes familiales ont été décrites. C'est ce qu'on nous dit dans cet article. Chez la majorité des patients, les cas sont diagnostiqués au moment de la puberté en raison de l'absence de développement sexuel. Toutefois, le syndrome de Kallmann peut être suspecté dans la petite enfance chez les garçons, présentant ce qu'on appelle une cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule qui n'est pas distendu, un micropénis ou une absence des caractères sexuels secondaires associés. Et ce site, toujours Orphanet, explique, hein, il complète, les principales caractéristiques cliniques sont l'absence de puberté spontanée complète et une altération partielle ou totale de l'odorat, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Chez les hommes adultes non traités, on observe généralement une diminution de la densité osseuse et de la masse musculaire. on observe une atrophie testiculaire, des troubles de l'érection, une diminution de la libido et une infertilité. Chez les femmes, le syndrome se manifeste plus souvent par un développement mammaire normal, faible, voire absent. L'Académie de médecine a liste d'autres anomalies qui peuvent être associées, comme des mouvements en miroir des membres supérieurs. Il y a également parfois une surdité, des problèmes au niveau des dents. Et l'analyse donc de ce morceau de tissu qui présente l'ADN d'Adolf Hitler a également dévoilé d'autres informations assez intéressantes. Parmi les résultats, les tests ont révélé que le détecteur nazi présentait une probabilité supérieure à la moyenne de développer un TDAH-A, ainsi qu'une forte probabilité de présenter certains comportements autistiques. Le détecteur avait également une, je cite, propension aux comportements antisociaux, et une forte probabilité de développer une schizophrénie. Les chercheurs tempèrent ces résultats et précisent que ces troubles ne doivent pas constituer une explication à la politique menée par le chef nazi. Il y a une généticienne qui a été interrogée par le Guardian et qu'on retrouve donc dans cet article du Point. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Hitler était atteint de l'une de ces maladies, seulement qu'il se situait en probabilité la plus élevée en termes de prédisposition génétique à certaines d'entre elles. Les scientifiques mettent en garde quand même contre le danger d'une stigmatisation des personnes atteintes par ces troubles. L'un des messages que nous, généticiens, nous efforçons de faire passer, c'est que le déterminisme génétique est erroné, c'est ce que précise toujours cette généticienne. Mais il y a un film qui va être diffusé ce soir, un documentaire, et les monteurs du film ont visiblement pris quelques libertés sans prendre en compte ces avertissements dans le montage final de l'émission. Donc ce qui va être diffusé ce soir, peut-être pas nécessairement le recul ou l'interprétation scientifique plus précise, ou en tout cas qui permet un petit peu de relativiser un petit peu les informations qui seront diffusées. Une prudence qui est assez similaire pour le professeur de psychologie Simon Baron Cohen, qui est cité également dans ce documentaire. Associer l'extrême cruauté de Hitler aux personnes atteintes de ces troubles risque de les stigmatiser. Et donc au Royaume-Uni, tous les médias ne sont pas unanimes sur l'intérêt d'un tel documentaire. Il y a The Guardian qui sanctionne ce documentaire d'un goût douteux, dit-il, et la revue The New Scientist qui tacle un film, je cite, sensationnaliste. C'est diffusé ce soir, ça commence à être un petit peu évoqué dans différents médias, j'ai vu ça sur Le Point ce matin, et je l'ai retrouvé très rapidement sur d'autres sites également, parce que ça va être diffusé ce soir, et ça risque de faire parler, bien évidemment. On en sait un peu plus, oui ou non. En tout cas, on est sur des bases génétiques, on est sur des probabilités. C'est un petit peu l'un des principes aussi de la génétique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez tel ou tel gène que vous êtes automatiquement comme cela. Mais bon, ça donne peut-être quelques éléments qui apportent un petit peu, enfin, qui vont permettre à certains d'expliquer un petit peu pourquoi cet homme était comme ça, quelque part. Voilà, donc vous en entendrez peut-être parler, je suppose, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et vous pourrez vous dire, tiens, c'était sur Graphite que j'ai écouté ça en premier, vous avez tellement raison. On va écouter peut-être un dernier titre, je vois qu'il est 12h45 et on se quittera juste après. Et puis on évoquera les autres actualités la semaine prochaine, accoulez-vous. C'est comme ça, ça passe tellement vite en votre compagnie. The Cage, c'était Zéro sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Mouroy.
Et ben on va bientôt se quitter, juste après ce dernier article qui nous parle de plaques d'immatriculation qui vont être roses sur nos voitures. Et c'est pas une blague, mais ce sera pas n'importe quelle voiture, en tout cas ce sera pas n'importe quelle plaque. Ce sont les plaques provisoires WW qu'on utilise pour les véhicules neufs, les véhicules importés ou les véhicules d'essai. Et bien dès l'année prochaine, elles pourraient, ces plaques devenir roses pour plus de lisibilité, pour faciliter leur contrôle. Ce dispositif va donc être appliqué. Donc, si vous importez votre nouvelle Mercedes, BMW, Audi, Porsche, quoi que ce que vous voulez, bah, vous devrez poser des plaques roses pour être en conformité avec la nouvelle législation. La future plaque rose concerne uniquement les immatriculations temporaires, hein, celles qui étaient les WW. Ces plaques sont attribuées aux véhicules circulant en attendant leur carte grise définitive. Voiture neuve ou voitures importées. La réforme, elle prévoit plusieurs nouveautés. La couleur passe du blanc classique au rose vif et une date d'expiration qui sera inscrite directement sur la plaque, ce qui va permettre une vérification visuelle immédiate par les forces de l'ordre. L'objectif est de réduire les fraudes liées aux plaques provisoires qui restent parfois en circulation après leur période d'autorisation ou qui sont utilisées sur un autre véhicule. Le dispositif vise à corriger plusieurs anomalies du système actuel. Le nombre limité de combinaisons WW conduit à une réutilisation rapide des numéros, environ tous les ans à peu près. Ça signifie que l'un après l'autre, il y a des conducteurs qui reçoivent des PV pour des infractions commises par un précédent utilisateur de la même plaque. Et par ailleurs, sans repère visuel fort, eh bien les forces de l'ordre ne peuvent pas toujours identifier rapidement si le véhicule est toujours couvert par une immatriculation provisoire en règle. Donc le choix de la couleur rose et l'affichage de la date de validité, ça va renforcer un petit peu cette visibilité. Cette réforme, elle ne touche pas les plaques définitives actuelles. Hein. Ce sont uniquement les immatriculations provisoires WW qui sont concernées. Les conducteurs d'un véhicule déjà immatriculé n'auront donc aucune démarche à faire, surtout que lors de l'achat d'un véhicule neuf en France, vous recevez généralement son immatriculation définitive avant la livraison du véhicule. Donc ces nouvelles plaques roses, elles seront peu répandues. Mais alors on va tout de suite les voir quand même, hein, sur le périph ou sur les autoroutes, on va tout de suite les identifier tellement elles seront peu nombreuses. Alors pourquoi un fond rose? Mais un rose, je te veux, un rose bien flashy, eh bien, le choix peut se justifier par le fait que certaines couleurs sont déjà utilisées par l'administration pour identifier certains véhicules rapidement. Le vert pour les véhicules d'ambassade, le rouge pour les véhicules des personnes en transit temporaire. Donc on s'est dit, bah tiens, du rose, pourquoi pas? Écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est à partir de l'année prochaine, donc ça va être vite là, vite mis en avant, bien évidemment. Allez, je vous quitte. Je vous laisse en compagnie toujours de Graphite pour continuer à écouter les émissions de votre radio curieuse préférée. On se retrouve samedi prochain. Alors, il y aura plein d'articles qu'on évoquera samedi prochain, avec notamment la nouvelle ambition d'Apple pour l'iPhone qui serait d'avoir des téléphones qui seraient toujours connectés, même s'il n'y a plus de réseau. C'est ça l'avenir. On ne nous lâchera pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Bonne journée, à bientôt.